Vous écoutez
RMC.
Les bras levés, c'est magnifique. Flo Pietrus, il est, c'est magnifique parce qu'il y a un énorme respect. La salle est debout. Il reste encore 8 secondes. On va l'attendre, ce buzzer. On va l'attendre. Il se trépigne sur le banc de touche. Agença, j'ai la balle. Petro, ils ont les bras les uns sur les autres. Batoul, c'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. C'est inni, c'est historique, c'est inimaginable. Qui avait pu parier sur cette équipe de France? Après le deuxième tour, on sort la Slovénie en quart de finale, l'Espagne en prolongation et la danse française sur le parquet en battant la Lituanie 80-66.
RMC, le dossier des GG.
Ah, vous vous en souvenez sans doute, les Bleus vainqueurs de l'Euro en 2013. La seule victoire française à l'Euro, et notre invité s'en souvient puisqu'il était ce jour-là sur les parquets. Boris Dieu est avec nous, salut Boris.
Salut Boris. Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Donc, faites-moi les malins là, d'un seul coup, on voilà, parle un peu de basket. Voilà. Boris,
bonjour,
merci
Boris.
Beaucoup.
Toi non plus, tu avec fais plaisir. Pas les malins. Hein.
Je fais pas les malins.
Pas malins devant Boris. Hein. Ah, bah, vous avez joué bah, ensemble. Ça te fait mais... plaisir de retrouver Fred
ouais. Bien sûr.
Tu l'écoutes de temps en temps, tu le trouves bon là dans son rôle de consultant.
Oui, justement. Je trouve
meilleur que sur le parquet.
Non, il était très bon sur le mais il est très bien dans son rôle de consultant.
Merci Boris.
Et dans les débats.
En tout cas, Boris, merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, à 10 jours de l'Euro, on va parler bien sûr de cette équipe de France. On va revenir sur le match d'hier, remporté par les Bleus. Ça a été quand même chaud face à l'Espagne à Bercy. Il y a eu aussi beaucoup de moments d'émotion. On les a suivis. Aujourd'hui, tu es manager général des Bleus, légende du basket, je le dis, pour les plus jeunes, mais quand même, plus de 200 sélections. Et l'actu ben, des Bleus, c'est la liste. C'est tombé il y a une heure seulement, avec le choix de Frédéric Fautou, donc de partir donc avec 12 joueurs, on le savait, mais de ne pas prendre Nadir Hifi, qui ne participera pas à l'Euro. Voilà le choix important à retenir, sinon tous les autres sont là. On rappelle aussi le forfait de Vincent Poirier. Nadir Hifi ne sera pas là, c'est Sylvain Francisco qui a été préféré à Nadir Hifi. On a les explications de ce choix, pourquoi plutôt Francisco que Hifi?
Oui, je pense que le coach dans la conférence de presse a expliqué ses choix. Il y a des choix qui ont été très très compliqués, très difficiles de toute façon depuis le début de cette préparation. On est vraiment sur un groupe qui est très très homogène. De mémoire, le groupe le plus homogène que j'ai eu la chance de côtoyer sur ces 25 dernières années avec les équipes de France. Et donc du coup ça a à chaque fois été un crève-cœur, ça a à chaque fois été très difficile et les choix ont été faits bah, vraiment par rapport à la construction d'une équipe. Donc c'est pas sur un manque de niveau, c'est pas sur un manque d'engagement de la part des joueurs. Tous les joueurs méritaient d'être dans cette équipe, tous les joueurs auraient pu apporter quelque chose à cette équipe et c'est encore le cas sur ce choix-là. Nadir a été exemplaire depuis le début de la préparation. C'est quelqu'un, on sait ce qu'il peut apporter. Il peut apporter des choses à l'équipe. Mais dans la complémentarité, les choix ont été faits différemment.
Francisco, il a fait des bonnes performances.
Hein, il a fait des bonnes performances. Moi, je trouve que depuis son passage à Kaunas, il a vraiment progressé dans la gestion du jeu. Il amène le ballon où il faut à chaque fois. Mmh. Il est moins foufou qu'il l'était avant. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Mais je comprends qu'on puisse hésiter avec Hifi, qui lui aussi peut apporter des choses en sortie de banc, qui est un peu un pétard ambulant et donc qui peut mettre des shoots assez incroyables. Donc, je suis un peu déçu pour Nadir Hifi, évidemment. Mais je pense que c'est un bon choix, hein, Francisco.
Voilà, les 12 bleus, je les rappelle. Isaiah Cordigné, Bilal Koulibaly, Sylvain Francisco, Jalen Hurd, Mam Djété, Timothy Luwawu Kabarro, TLC, Théo Malédon, Elie Okobo, Zachary Risaché, Alexandre Sarr, Mathieu Strazel et Gershon Yabouzélé qui sera donc le capitaine de ce groupe France. Il y a un forfait, on va en parler parce que c'est important. On l'a appris hier, Vincent Poirier, gros coup dur pour les Bleus. Comment le remplacer? Ça, c'était la question. Et il n'y a pas eu donc d'appel à un nouveau pivot dans cette équipe.
Oui, c'est ça. Donc on était 14 avant de faire la sélection aujourd'hui. Et donc bah, un des 14 qui était Vincent Poirier qui était blessé du coup au genou.
Ouais, c'est un coup dur.
Oui, bien sûr, c'est un coup dur parce que c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de particulier dans un profil particulier par rapport à cette équipe. Il a apporté vraiment de la taille. Il a apporté aussi du physique, du poids dans cette raquette. Il a apporté aussi de l'expérience. Et donc c'est toutes ces qualités-là qui étaient difficiles à remplacer de toute façon. Et le choix a été fait de le remplacer différemment, de le remplacer avec les joueurs qui faisaient déjà partie de cette équipe. Comme je vous l'ai dit, on était 14 et on peut suppléer ce que pouvait apporter Vincent d'une manière différente avec avec tous les joueurs qui doivent faire des efforts supplémentaires à leur poste aussi. Ouais.
Alors il y a un joueur qui a été contacté, c'est l'intérieur des Charlotte Hornets, Moussa Diabaté. On va écouter Fred Fautou, c'était il y a quelques instants lors de la conférence de presse, interrogé donc notamment par RMC Sport sur le choix de Moussa Diabaté finalement de ne pas venir en équipe de France. Écoutez Frédéric Fautou.
Sur le poste d'intérieur, on a avec la blessure de Vincent qui est, comme je l'ai dit, qui est un coup dur et qui nous posait problème. On a sollicité au moins un joueur qui avait fait la préparation avec nous, qui Moussa Diabaté, qui a refusé de revenir pour des choix personnels de carrière. J'aurais pas fait ce choix, je peux vous mentir. Mais c'est le sien, il faut le respecter. Donc on a préféré privilégier les solutions en interne.
Voilà, Moussa Diabaté, donc, qui a choisi de ne pas participer à cette aventure-là. Il avait déjà refusé d'être partenaire d'entraînement avant les Jeux Olympiques. On a entendu la déception de Frédéric Fautou. Boris Diaw, on te connaît, un amoureux de l'équipe de France. T'as fait beaucoup de bien à cette équipe de France. Ce choix-là de Moussa Diabaté, j'imagine que tu as du mal à le comprendre.
De la même façon, alors pas à le comprendre, de la même façon, et comme a dit Fred, je sais que personnellement, j'aurais pas fait ce choix-là, mais c'est pas moi qui fais ce choix, et donc toutes les personnes sont différentes, toutes les personnes réfléchissent de manière différente, et il faut pouvoir tout simplement prendre acte.
Fred.
Alors je suis à peu près sur la même ligne que mes collègues. J'aurais pas fait ce choix-là, mais après faut entendre aussi que des saisons NBA c'est compliqué, qu'il doit faire sa place là-bas, qu'il a peut-être un programme de préparation pour aborder la NBA parce que lui il pensait ne plus être sélectionné, donc je pense qu'il avait prévu autre chose. Une nouvelle fois, j'aurais pas fait ce choix-là, mais chacun fait les choix de carrière qu'il veut, et si ça lui réussit et que dans 2-3 ans, grâce à ça, il a une meilleure carrière NBA et qu'on est content de le récupérer, tant mieux pour lui.
En tout cas, vous auriez pu quand même faire le choix de prendre Fred Weiss, quoi. Franchement, il est encore en forme.
Non, il a dit qu'il partait en vacances, là.
Il a dit qu'il n'aurait pas fait le choix, donc s'il avait été appelé, il serait venu.
Ah oui,
j'ai une question pour Boris.
Pascal.
Ouais, en fait, on depuis le début, vous posez des questions, c'est pas un reproche, hein, mais à Boris, alors qu'il est dirigeant, vous voulez poser des questions sur les choix du sélectionneur. Moi, simplement, en ta qualité de dirigeant du basket français, j'aimerais te poser la question pour toi. Quel est le moins-disant des résultats que l'équipe de France doit obtenir au prochain championnat d'Europe qui démarre le 27 de ce mois. Donc dis-moi si le dernier carré, tu objectiveras que c'est le moins-disant, ou tu veux que l'équipe de France, tu souhaites que l'équipe de France, tu penses que l'équipe de France doit l'emporter.
Bien sûr, c'est de toute façon les choses ont pu évoluer. C'est ce qu'on voit aussi un petit peu par rapport à ce début de préparation. On était sans savoir exactement quel allait être notre niveau en commençant cette préparation, parce que beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, nouveau staff également, et donc il fallait pouvoir prendre aussi la mesure pour savoir où on veut aller. Alors bien entendu, les joueurs et nous aussi, on essaye d'aller le plus loin possible et le plus haut possible.
C'est une réponse de Normand, ça.
Bien sûr. Il faut jamais aussi oublier la compétition. On peut pas juste se concentrer sur nous. Il y a des équipes en face quand même, avec des joueurs. On parlait de Jokic tout à l'heure, parce que Fred Weiss a dit qu'il pouvait le battre un contre un. Enfin,
de mettre dans sa poche, il a dit exactement.
J'ai dit facilement. Aux échecs,
mais voilà, savoir
que il y a l'Allemagne,
des très grosses équipes qui peuvent prétendre vraiment à gagner. Donc voilà, donc nous, ça dépendait aussi. On voit aussi que la préparation a continué, qu'on a eu aussi des blessures au fur et à mesure des joueurs qui ont pu ne pas être là.
Elles sont quand même constructives de quelque chose.
Bien sûr, elles sont constructives et on continue à construire et cette équipe continue à grandir et on a encore du chemin à faire. Alors ces matchs contre l'Espagne, c'est plus l'Espagne non plus de l'époque, même s'ils sont jamais faciles.
Oui, mais le caractère montré en deuxième mi-temps m'a semblé hyper intéressant. Alors je suis d'accord avec toi, franchement l'Espagne ça n'a plus rien à voir et on ne peut plus les considérer comme des prétendants au titre comme ils l'ont toujours été, même si à chaque fois ils nous créent des surprises. On se rappelle 2022 par exemple. Mais réellement, le caractère qu'a montré cette équipe, les leaders, moi je pense à Mathieu Srazel qui a été excellent sur le début du troisième carton pour aider justement cette équipe à revenir, ça donne quand même des signaux hyper positifs.
Oui, on a des signaux hyper positifs. Et donc, pour répondre vraiment concrètement aussi à cette question, de réponse de Normand, non, ce serait bien sûr très bien d'aller dans le dernier carré. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment tendance à dire qu'on essaie aussi d'inculquer cette culture de la gagne aux jeunes qui arrivent aussi. Mm-hmm. On a réussi à hisser l'équipe de France au plus haut niveau international et le but est d'y rester, quelle que soit l'équipe, quels que soient les joueurs qui soient là. On a aussi cette responsabilité de continuer à avoir l'équipe le plus haut possible et donc essayer d'arriver dans le dernier carré serait déjà très bien compte tenu de la difficulté de ce championnat et des équipes qu'on va avoir à affronter. Oui.
Alors on va en parler dans un instant, hein. Gardez vos questions pour Boris Diaw qui est avec nous en direct, 32-16 aussi d'ailleurs si vous voulez rejoindre RMC et les Grandes Gueules du Sport pour poser vos questions à Boris Diaw, invité exceptionnel donc des Grandes Gueules du Sport. On vient dans une minute, on continue de parler des objectifs de cette équipe de France. J'aimerais qu'on parle aussi de ce qui s'est passé hier sur les parquets avec ce moment d'émotion pour Nicolas Batum, pour Nando De Colo. On en parle dans un instant sur RMC, restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Encore un quart d'heure à passer ensemble dans les Grandes Gueules du Sport. Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Boris Diaw. Alors, c'est pas encore une nouvelle Grande Gueule du Sport, on l'espère peut-être un jour. Il a d'autres choses à faire entre temps.
J'ai une petite gueule, moi je suis normand.
Ah, salut, attention. Hein, salut, hein,
tu vas te rentrer dedans, Sarah. Non, mais c'est parce que t'es occupé aussi, je crois. Voilà. Tour du monde, non?
Oui, aussi.
Ouais, hein, il faut le finir.
Ouais.
Il faut le finir.
Non, mais tu viendras.
Il y a plusieurs billes à voir ici.
Tu viendras faire les Grandes Gueules du Sport parce qu'on t'accueille avec grand plaisir.
Avant, mais tu veux jamais virer, c'est ça?
Non, pourquoi? Vous pouvez faire.
T'as vu,
on aura le 5 majeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le 5 majeur, il est là. Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski.
On a deux meneurs.
Hein. Alors, même, hein. On n'est pas très haut.
Oui,
alors
je sais pas qui est le plus mauvais des deux meneurs. Alors.
C'est ce qu'on disait, le small ball. Voilà, oui, c'est dans exactement. Les Grandes Gueules du Sport. Je rappelle, donc, on est à 10 jours de l'Euro. Prochain match de prépa dimanche prochain à Athènes face à la Grèce pour l'équipe de France avant de lancer l'Euro face à la Belgique le 28 août. Puis viendront des rencontres face à la Slovénie, Israël, la Pologne, l'Islande. On va parler des objectifs, on en a un peu parlé pour l'équipe de France. Mais on va retrouver Mathéo Rollet, notre envoyé spécial RMC qui a suivi la conférence de presse de Frédéric Fotou. Il y a quelques instants. Bonjour Mathéo.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Dis-nous ce qu'il a dit là, c'était il y a quelques instants, notamment concernant les ambitions de cette équipe de France.
Oui, bah écoute, François, il est arrivé plutôt détendu, à vrai dire. Donc, j'imagine quand on est invaincu à la tête de l'équipe de France, ça aide. Mais il est confiant, il n'a pas peur de l'absence de Vincent Poirier, même s'il l'aurait bien emmené, vous l'imaginez bien. Et puis, ce choix de Moussa Diabaté de rester finalement aux États-Unis pour préparer sa saison, et il le comprend, même s'il ne l'aurait pas fait. Et il va du coup s'appuyer sur les joueurs qui sont présents, et il voulait insister là-dessus, puisque selon lui, la préparation est excellente, le groupe vit très bien. Alors il va falloir s'adapter à cette absence de Vincent Poirier, jouer petit, même s'il compte aussi beaucoup sur Alexandre Sarr pour récupérer les ballons hauts. Et puis ensuite, on a pu interviewer Bilal Koulibaly, qui lui apparaît comme l'un des cadres de cette équipe de France jeune, très jeune. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France aussi jeune. Et il nous a dit qu'il était vraiment motivé pour finalement amener l'équipe de France au plus haut de cet Euro et montrer que la passation de pouvoir entre les moins jeunes et la génération dorée qu'on a connue et cette génération-là se fait finalement plutôt facilement. Alors voilà, des stratégies différentes, des joueurs plutôt différents, mais le groupe vit bien, le groupe veut aller au bout, et ça c'est surtout le principal, c'est surtout ce qu'a voulu dire et voulu insister Frédéric Fotou.
Parfait, merci beaucoup Mathéo. Évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence de presse sur rmcsport.fr. On est avec Boris Diaw, donc en direct, manager général de cette équipe de France. Quand Mathéo nous disait, voilà, et Frédéric Fotou dit que le groupe vit bien, alors souvent on dit ah bah ça c'est un poncif de journaliste, ça on nous dit ça, on nous rabâche ça. Bon, tu les connais par cœur, Boris, tu les vois évoluer. C'est la réalité? Il se passe un truc dans ce groupe?
Oui, vraiment. Alors après, c'est sûr, souvent quand on rajeunit et qu'on a le même les mêmes générations qui sont ensemble, c'est aussi plus facile parce que on parle le même langage. Donc, mais clairement, ce groupe vit particulièrement bien. Ils sont vraiment tous sur la même longueur d'onde. Ils se serrent les coudes. Après, c'est dans les moments difficiles qu'on voit justement si ça fonctionne bien. Pour l'instant, on a eu 3 victoires, mais on a eu une première mi-temps difficile. Et comme disait Fred tout à l'heure, il y a eu une vraie réaction au niveau des joueurs.
Donc, il y a du caractère.
Il y a du caractère et il y a du caractère qui a été mis ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes quand on fait une mauvaise première mi-temps. Ils se sont serrés les coudes et ça, c'est le plus important.
Avec Yabouzélé, capitaine aussi. Ça, c'est un choix important aussi. Alors, même si c'est un des plus expérimentés, c'est quel capitaine? C'est quel type de capitaine?
Oui, bien sûr. C'est un nouveau rôle pour lui. Donc, c'est pareil. C'est quelque chose qui l'endosse et qui est une nouvelle expérience pour lui parmi cette équipe. Mais oui, il le prend très, très sérieusement et c'est souvent quelque chose qui est difficile parce qu'il faut se concentrer sur son jeu, se concentrer sur l'équipe en même temps. Mais effectivement, c'est le joueur qui a le plus d'expérience dans cette équipe et puis maintenant un des plus âgés puisque c'était Vincent qui était, non, Yamam Jaïté qui est peut-être plus âgé. Mais ça doit être le deuxième plus âgé de ce groupe, je pense.
Ouais, donc de l'expérience. Sarah.
Moi, j'ai une question alors de néophyte, mais peut-être que le public français se pose. Est-ce qu'il faut tirer un trait en dehors des Jeux Olympiques sur la présence d'un Wendy au sein de cette équipe de France?
Non, est-ce pas
que,
du tout.
Est-ce que, voilà, parce que quand il est parti aux États-Unis, il déclarait que l'équipe de France avait de l'importance et qu'il ferait tout pour jouer. Mais...
Bien sûr.
Mais voilà.
Mais c'est le contexte, ça. Je pense que
oui,
bon, c'est le contexte qui a fait qu'il n'a pas pu être présent.
Il y aura toujours le contexte de la NBA.
La première Coupe du Monde, il commence sa carrière NBA, donc c'est assez logique que finalement il privilégie la carrière NBA. Et là, il sort d'un problème physique très, très important. Donc c'est le contexte.
Non, mais c'est vraiment ça. Non, moi je suis.
Parce qu'on a déjà eu par le passé le débat autour de Joachim Noah, peut-être pas la culture française comme Wendy qui a grandi en France et qui a évolué en France, mais ce débat a été quand même assez récurrent pour l'équipe de France.
Or, c'est pas du tout le même cas.
Ouais.
C'est vraiment deux situations qui sont très différentes. Wendy, bien entendu, a exprimé le fait de vouloir jouer avec l'équipe de France, que c'était important, qu'il avait envie de jouer tous les étés avec l'équipe de France tant que sa santé le permettait. Donc c'est là et cette dernière phrase qui est importante, sa santé le permet. Donc il a eu bien sûr une blessure très lourde cette saison avec une thrombose, un caillot sanguin avec une opération et donc le fait de ne pas pouvoir revenir était le fait de pouvoir revenir physiquement à 100% avant de pouvoir être avec l'équipe. Donc moi je suis persuadé qu'il sera avec l'équipe de France tous les étés,
prochaine saison.
Tant qu'il sera
plus un Boris Diaw et Anthony Parker qu'un Noah dans cette attitude.
Oui.
Lui, ils ont plus la culture du basket, d'avoir envie de jouer avec l'équipe de France, repenter
le pays. Ça reste des sacrifices d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de culture parce que effectivement faire autant de matchs NBA et enchaîner sur l'équipe de France, c'est jamais facile, donc faut quand même leur tirer un coup de chapeau, même si j'aime pas tirer des coups de chapeau.
Alors, il y aura pas Wembanyama. Il y aura pas Wembanyama, mais les amis, là, faut vous mouiller quand même. Est-ce qu'on peut croire à une victoire française? Alors, Boris Diaw, qui est avec nous dans ce studio, nous dit que déjà, dernier carré, ça serait très bien pour cette équipe de France, c'est l'objectif. Sarah, toi, tu penses quoi?
Mais qu'est-ce que tu veux que je pense?
Elle pense comme Boris.
Je pense que le dernier carré est minimum. Quand on est médaille d'argent aux Jeux Olympiques, on peut légitimement penser qu'on peut ramener une médaille. Mais ça, c'est du pragmatisme de
Pascal. Non, parce que Pascal, je crois qu'il pense vraiment à la victoire finale, hein, Pascal.
Mais
c'est toujours un tour rêveur, Pascal.
Ah, voyez, je suis pas là, donc je crains rien. Boris va pas me tirer les oreilles. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que les réponses de Boris, elles suffisent à me convaincre que j'ai l'impression qu'ils sont tapis dans l'ombre et qu'on va avoir une bonne surprise. Parce qu'il incarne la force tranquille au travers de ses réponses. Et en plus, la franchise, je te remercie.
Par contre.
Non, mais je te remercie mais quand même, quand t'as, le manager de l'équipe de France qui te dit qu'on, l'objectif, tranquillement, il te le dit, c'est d'être dans le dernier carré parce que la France a l'habitude de gagner et sa génération et les générations précédentes ont hissé le basket français à un tel niveau. Moi, j'ai envie d'y croire. Donc, j'y crois. Merci, Boris. Merci.
tu dirais
à la victoire, pas du tout.
Non,
j'y crois pas du tout, mais moi, je pense que j'ai envie
t'as un disproie, toi.
Non, j'ai envie de voir cette équipe progresser. C'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui a un nouveau coach. Pour moi, c'est une année de transition. Est-ce qu'on va faire des coups? C'est tout à fait possible, parce qu'encore une fois, cette équipe de jeunes a montré du caractère, notamment contre l'Espagne. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont pu proposer, parce que quand tu joues aussi mal en première mi-temps, que tu réussisses à t'imposer contre une équipe, même si c'est plus l'Espagne d'avant, aussi sérieuse que l'Espagne, je trouve ça très très bien. Donc faire un coup sans doute, mais pour moi il y a des équipes qui sont mieux armées, notamment la Serbie qui me paraît, même si Jokic, je pense que j'aurais pu l'arrêter aux échecs, objectivement c'est des équipes qui sont mieux construites et qui en tous les cas plus de vécu collectif.
Tu penses quoi de ce que vient de dire Fred, Boris?
Oui, ben exactement, je vais vous dire tout simplement qu'il faut avoir de l'humilité, mais ça n'empêche pas l'ambition. Nos joueurs sont ambitieux, ils ont l'ambition d'aller le plus loin possible. Pour atteindre la lune, il faut parfois viser les étoiles. Et donc,
t'entends ça, Fred?
Essayer d'aller le plus loin
possible. Oui, il est la même chose que moi. J'entends très bien.
Non, il y a match. Il y a match.
C'est idiot quand même.
Voilà, donc.
Alors, moi, je voulais quand même parler de cet hommage hier rendu à Nando De Colo et Nicolas Batum, de légende du basket français. Tu étais aussi sur le parquet d'ailleurs aux côtés de Nando De Colo. Évidemment, ce sont des légendes du basket et ça ne doit pas être si simple de passer derrière vous, derrière toi, derrière Batum, derrière Nando De Colo, quand on est cette équipe de France. Ça leur met quand même une petite pression supplémentaire ou au contraire, ça doit les porter?
Ça doit les porter et puis tous les anciens joueurs ont toujours de très bons mots pour eux. On a fait remettre les maillots par les joueurs qui avaient plus de 200 sélections. Ouais. Du coup, en équipe de France.
Il n'y avait pas Fred Weiss d'ailleurs.
J'ai pris ma retraite.
Ils ont toujours été bienveillants et donc ça doit les porter parce qu'on met vraiment l'accent sur ça, sur l'histoire et sur les joueurs qui étaient là avant. Et du coup, c'est pas pour mettre une pression du coup supplémentaire.
Non, mais ça leur met.
Non, c'est un exemple. Oui, mais c'est magnifique. En fait, c'est des précurseurs, c'est des pionniers. Et je trouve qu'au contraire, c'est magnifique de les mettre en avant parce que tu dis voilà vers où on doit tendre. Et franchement, quand on a des joueurs de ce calibre-là qui te montrent la voie,
ils sont réceptifs à ce que vous dites.
Oui, bien sûr, ils sont très réceptifs et comme j'ai dit, de toute façon, ils sont top dans l'engagement depuis le début. Et donc, d'avoir ces modèles et il y en a aussi une grosse partie qui a joué avec Nando et avec Nico et donc ils ont ces souvenirs là aussi.
Cette différence de culture parce qu'on sait que et on le voit dans les autres collectifs entre cette ancienne génération, mais cette jeune génération qui est connectée à tout le temps. Est-ce que vous partagiez ils partagent les mêmes passions, le même style de musique, où il y a ce fossé qui se creuse entre les anciens et cette génération qui a évolué et qui a grandi avec vraiment beaucoup plus d'outils que nous on avait quand on commençait le sport?
Alors bien sûr, il y a de grosses différences, on les voit toujours, mais on les voit même à l'intérieur d'un collectif. Et c'est marrant là de voir nous les jeunes qui on se disait ça y est, on comprend plus leurs blagues. On était en fin de carrière et il y avait des jeunes et ces jeunes aujourd'hui, je parle un gars comme Mam Jaïté par exemple, qui lui du coup un des anciens et qui dit ça y est, je comprends plus les blagues des jeunes. Donc ça arrive à tout le monde et c'est normal. Mais ça n'empêche pas d'avoir le respect, ça n'empêche pas justement qu'il y ait une alchimie et toutes les équipes qui ont réussi, c'est toujours quand l'alchimie marche entre la fougue, la jeunesse, l'insouciance et les anciens qui apportent
l'expérience. Et une forme de tradition et d'historique.
Il faut que les deux marchent. Ça marche jamais s'il y a que des jeunes, ça marche jamais s'il y a que des vieux. Et c'est toujours l'alchimie qui fait qu'une équipe.
Tu comprenais quand même les blagues de Fred Weiss quand tu jouais avec lui?
Nous, on ne comprenait plus.
Bon, Boris, merci mille fois d'être venu dans le studio RMC. Et tu reviens quand tu veux. Bien sûr, on va suivre le destin de cette équipe de France. Donc, on l'a dit, contre la Grèce dimanche prochain. Ça sera en Grèce.
Il a dit qu'ils allaient gagner, hein.
Le
titre européen.
Ah oui, d'accord.
Oui, Boris, c'est ce qu'il a dit.
On n'a pas eu la même
lecture.
On n'était pas sur la même interview.
Bon, on va réécouter tout ça.